Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Quels matériaux seront utilisés demain en construction ? Face aux défis environnementaux et aux avancées technologiques, le secteur du bâtiment ne cesse d'innover. Et en Nouvelle-Calédonie, le cluster éco-construction rassemble les professionnels qui sont engagés dans cette transition. Il organisait d'ailleurs mardi dernier la deuxième édition des CAPTEM, une journée d'échange consacrée aux nouvelles pratiques et aux évolutions de la construction durable. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette émission avec nos quatre invités. Mathieu Landrieux, qui est le président du cluster éco-construction, Noémie Gervais, qui en est la responsable, Valérie Tigny, qui est gérante d'Isoca, une entreprise spécialisé dans la ouate de cellulose, et Yves Véran, qui est le directeur général de Donian Boscori. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces nouveaux matériaux de construction. Est-ce que c'est un terme qu'on peut employer comme ça, nouveaux matériaux de construction, Mathieu Landrieux ?
Alors, c'est une super question, parce que nouveau au sens que peut-être on les remet sur un marché et qu'ils réapparaissent, mais au final, pas tant au sens que ce qu'on cherche surtout à faire, c'est réutiliser du local, réapprendre certaines techniques de mise en œuvre qu'on avait peut-être perdues au fil de l'eau. C'est en même temps nouveau et en même temps, on s'inspire beaucoup de ce qui se faisait avant.
Et ne pas forcément aller chercher à l'extérieur des matériaux qui pourraient être produits ici.
Ah ouais, alors ça, c'est complètement le credo. Produit et mis en œuvre ici, effectivement, plus on sera autonome dans cette capacité à utiliser des matériaux qui sont sur place, évidemment, et plus on imagine que tout le monde gagne, le bilan carbone, le travail local, etc.
Alors, on va évidemment parler de ces nouveaux, ou en tout cas de ces matériaux, mais peut-être, Noémie Gervais, il faut rappeler comment fonctionne le cluster éco-construction, comment il est organisé et quels sont ses buts.
Totalement. Du coup, le cluster éco-construction, en fait, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2017, donc qui a déjà quasiment bientôt une dizaine d'années d'existence. Et en fait, il regroupe les acteurs du BTP qui sont qui souhaitent vraiment s'intégrer et faire progresser la filière du BTP vers des bâtiments avec une certaine qualité environnementale.
Donc vous réunissez les différents acteurs, il y a des séquences de travail, de réflexion, comment ça se passe concrètement ?
Tout à fait, donc on a des groupes de travail sur des réflexions sur divers sujets thématiques. On crée aussi des événements pour faire connaître en fait le sujet de l'éco-construction au sens large, avec pareil des thématiques particulières, dont mardi dernier on a fait une conférence CAPTEM dédiée aux matériaux biosourcés et issus du recyclage. Donc mettre en avant des nouvelles pratiques constructives, les faire porter à connaissance au plus grand nombre de professionnels pour faire évoluer ces pratiques.
Est-ce que ça veut dire, Mathieu Landrieux, que le monde du BTP aujourd'hui s'interroge vraiment sur ces pratiques et il est prêt à les transformer ? Alors on sait qu'il traverse une période de crise, donc est-ce que c'est aussi une opportunité peut-être pour réfléchir à de nouvelles façons de faire ?
Oui, alors je suis pas sûr qu'on sauvera toute la crise grâce à ça. Et puis également, l'idée c'est pas de jeter tout ce qu'on faisait jusqu'ici et les matériaux importés, etc. Je pense que l'idée c'est de retrouver un compromis peut-être qui permette de réintégrer encore une fois des techniques et des matériaux locaux. Parce que ce qu'on cherche à atteindre quand même, c'est d'avoir des bâtiments qui soient mieux préparés à l'avenir, et notamment climatique et énergétique. Et ça, les matériaux, alors entre guillemets dit traditionnels, mais qui en fait ne sont pas vraiment, quoi, mais parce que c'est très récent d'utiliser ces matériaux-là, le béton, tout ça, machin, ça a plein de super avantages, mais ça a aussi des limites face à cette évolution climatique qui nous attend. Et donc, ces nouveaux matériaux dont on parle là, ils vont pouvoir permettre de répondre à cette évolution climatique. Et c'est ça, vraiment, l'objet du cluster, c'est d'apporter des solutions à ce changement à venir. Et j'ajoute, pour compléter ce que disait Noémie, le cluster éco-construction fait hyper attention à ce que dans ses membres, on est et des gens qu'on appelle de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire des concepteurs, donc qui réfléchissent à comment, qui font les plans, etc., et des gens issus de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de ceux qui vont acheter, payer les bâtiments et les exploiter derrière, et des gens issus des entreprises qui mettent en œuvre. Et c'est bien en réfléchissant tous ensemble qu'on va arriver à trouver des solutions pour faire évoluer les choses.
On va parler de certains de ces matériaux, hein, puisqu'on va parler notamment avec les invités qui sont avec nous de la ouate de cellulose ou encore des scories, hein, qui sont aujourd'hui valorisées. Noémie Gervais, quels sont les autres types de matériaux aujourd'hui qui émergent dans le domaine ?
Aujourd'hui, il y a la filière bois qui est en train de se structurer.
On a fait une émission sur Interbois il n'y a pas très longtemps.
Voilà, effectivement. Et donc, c'est vraiment pouvoir structurer toute cette filière sur le territoire avec toute la chaîne d'acteurs de ce secteur pour que le bois qui est existant, le bois local, puisse vraiment être utilisé à bon escient sur le territoire et qu'on retrouve les matériaux au bon endroit aussi dans le bâtiment. On n'a pas vocation à enlever les matériaux standards, mais à retrouver que les matériaux biosourcés ou issus du recyclage trouvent leur place dans le bâtiment.
On parle aussi du chanvre, c'est un matériau sur lequel il y a du travail qui se fait.
Alors, ça avance tout doucement. Là, il y a eu un premier arrêté qui est passé par le Congrès pour la structuration de la filière chanvre. Donc, c'est aux prémices et donc c'est à l'étude, puisqu'il y a tout un aspect pour le chanvre au niveau du bâtiment qui peut être intéressant également. Donc, à voir par la suite son développement.
Oui, Mathieu Lenrieux.
Et puis, il y a tout un pan sur la partie terre. Qui est vraiment plein de potentiel aussi pour la brique de terre crue, la brique de terre compressée, toutes ces méthodes d'utilisation de la terre qui sont un peu perdues aussi au fil de l'eau et qui pourtant d'ailleurs réapparaissent hein, dans plein de territoires en Europe. On se réapproprie ces techniques et qui sont assez efficaces, mais qui nécessitent un savoir-faire dans la fabrication du produit lui-même. Et aussi un savoir-faire dans à quel endroit on peut les mettre dans les bâtiments pour que ce soit durable et que ça respecte aussi les problématiques d'assurance, etc. Parce qu'on retombe vite dans le côté réglementaire à chaque fois.
Alors, on va parler de... Oui,
C'est faisable puisqu'on a quand même des bâtiments en terre aussi sur le territoire, notamment dans le Nord. Hein, donc, il y a des bons exemples. Donc, ça existe et c'est faisable.
Mais ces matériaux aujourd'hui qui sont de plus en plus utilisés, est-ce qu'ils pourraient devenir à terme une sorte de... Enfin, ils sont des matériaux d'appui point où il pourrait servir de base finalement à un certain nombre de constructions.
Je ne crois pas qu'on puisse vraiment remplacer à 100%, et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver, comme je disais, un compromis, c'est-à-dire de mettre les bons matériaux aux bons endroits. Les matériaux béton, acier, etc. apportent énormément de solutions à plein de belles choses, et donc il faut savoir continuer à les utiliser, mais réintégrer ces notions d'éléments en briques, en isolation, etc., pour qu'on puisse compléter, venir effectivement réduire peut-être, mettre aux bons endroits pour récupérer du confort thermique. Et puis même visuel, on a aussi des choses qui sont du coup belles. On le remarque, à chaque fois qu'on remet ces matériaux en œuvre, il y a aussi un côté usager qui dit c'est quand même beau, parce qu'on retrouve le charme d'antan, on dirait. C'est incroyable, on parle vraiment du passé et du futur en même temps.
Ouais, c'est ça qui est bien. Il y a un matériau qui est typiquement calédonien, c'est la scorie de nickel, qui est exploité, en tout cas qui est valorisé depuis un certain nombre d'années. Yves Véran, vous êtes le directeur général de Doniambo Scorie. Rappelez-nous très rapidement la démarche qui a été initiée et à quoi peut servir aujourd'hui la scorie.
Alors oui, merci. Donc DBO Scorie, c'est une filiale de la SLN. Ça fait un bon nombre d'années que la SLN vend sa scorie localement. Et depuis environ 15 ans, on cherche vraiment à la valoriser de mieux en mieux. Donc de chercher de nouveaux débouchés ou de réapprendre, ce mot est employé par Mathieu, réapprendre à utiliser la scorie. Et il y a également un aspect réglementaire qui est très important. L'un des freins à son utilisation pendant des années, notamment dans le béton, ça remplace le sable naturel. Alors pas totalement, mais environ 30%, ça a été l'aspect réglementaire. On était effectivement embêtés par le fait qu'on ne pouvait pas assurer des bâtiments dans lesquels la scorie rentrait dans la formulation du béton. Et ça a changé il y a de ça donc très peu de temps, 2025, avec le RCNC.
Le fameux référentiel de construction de
Nouvelle-Calédonie. Où la scorie aujourd'hui est le premier matériau issu de l'économie circulaire, puisqu'on est vraiment sur du recyclage, qui est aujourd'hui référencé au RCNC, ce qui permet à n'importe quel maître d'œuvre ou réalisateur donc d'un bâtiment de l'utiliser dans une formulation de béton. Ça, c'est un grand pas qui a été franchi aujourd'hui pour une scorie qui est disponible, qui est un produit local, que l'on ne peut que développer et qui, pour moi, aujourd'hui, ne pose aucun problème dans la construction.
Les réserves, aujourd'hui, sont suffisantes pour avoir une valorisation vraiment utile, j'allais dire.
Alors, oui, dans un contexte, en plus, où le BTP ne va pas très bien, on a, nous, SLN, 25 millions de tonnes de scorie, on en produit 1 million de tonnes par an, donc on a largement de quoi satisfaire les besoins du territoire. On n'est pas adossé à une économie telle qu'on peut en voir ailleurs, donc le local, il n'y a pas de problème, et on cherche également à exporter notre scorie aujourd'hui, on le fait depuis plusieurs années, sur des applications donc comme le sablage, les abrasifs sur les USA, et également en Australie où on exporte depuis 2024 pour des fabrications d'éléments de construction, des briques, des éléments de béton préfa. Donc oui, on a réellement aujourd'hui un produit calédonien que l'on ne peut que développer.
Et il y en a pour encore de longues années, hein. On est bien
Alors,
d'accord.
Alors, beaucoup d'années, sans aucun problème. Et j'insiste également sur un aspect qui est important pour moi, c'est la durabilité. Hein. Mathieu en a parlé, on est bien sur un produit donc, qui s'inscrit pour moi dans une économie ou dans une construction durable. C'est pour ça que dans l'Immo Scoré et la SLN, on rejoint le cluster il y a deux ans. Et j'en suis également le trésorier aujourd'hui. Donc c'est une activité qui, moi, va de pair avec ce que la SLN veut faire aujourd'hui d'un point de vue sociétal avec sa scorie.
Alors vous, Valérie Tini, vous êtes gérante d'Isoca, vous travaillez sur la ouate de cellulose. Rappelez-nous rapidement ce qu'est la ouate de cellulose.
Alors, c'est un produit d'isolation thermique et acoustique, au fait, qui est fait en Nouvelle-Calédonie à base de papier carton recyclé.
Voilà, donc c'est uniquement un produit recyclable.
Voilà, c'est ça.
Mais contrairement à la scorie, vous n'êtes pas aujourd'hui dans le fameux référentiel de construction de la Nouvelle-Calédonie, c'est ça ?
Alors oui, en fait, c'est d'ailleurs compliqué en fait à comprendre puisque en fait on n'a pas inventé un nouveau produit, on n'a pas travaillé sur une base réglementaire d'un produit totalement qui sortait de l'ordinaire. On a fait que reproduire en fait le même produit qui est commercialisé en Europe et en Asie, et en fait on se retrouve en fait avec beaucoup plus de difficultés sur ce référentiel qu'on devrait en avoir normalement, puisqu'on n'a pas inventé le fil à couper le beurre sur le
matériau. Oui. C'est un des travaux du cluster, Noémie Gervais, que de faire en sorte que voilà, des produits de cette nature puissent s'intégrer au référentiel de construction. C'est aussi un travail de fond que vous menez.
Il y a des groupes de travail pour pouvoir faire évoluer effectivement les matériaux, leur donner de la visibilité et effectivement que ces matériaux puissent obtenir des certificats, pour être normés, pour pouvoir être plus utilisés, et ça rentre dans le cadre de la construction, effectivement.
Pardonnez-moi cette question, Valérie Tini, mais si ce matériau ne peut pas être utilisé aujourd'hui dans la construction, quels sont vos débouchés actuels ?
Alors, il est utilisable dans la construction, après, on parle de marché public, hein. Essentiellement ou effectivement dans le marché public on va demander précisément en fait d'être agréé RCNC. On essaye de faire entendre raison en disant que malheureusement ça n'est pas dû en fait au produit, puisque le produit est calqué en fait sur le produit européen, que c'est simplement des retards administratifs. Ça fait 3 ans et demi qu'on travaille sur le sujet, hein. c'est pas depuis hier qu'on a travaillé avec la DAPM justement pour faire évoluer ce référentiel. On a fourni les analyses en fait de la conformité du produit. On a mais après c'est les lenteurs administratives qui font que on n'a pas encore l'agrément. Après on s'est aussi aperçu avec le temps puisque je vous dis c'est pas un produit nouveau, c'est un produit qui était utilisé en Nouvelle-Calédonie depuis près plus de 15 ans. Et on s'aperçoit qu'en fait il y a une totale méconnaissance de ce produit, aussi bien dans ses capacités que dans sa mise en œuvre. Donc c'est d'autant bien en fait d'avoir une production locale, parce que ça va permettre au fait de en même temps d'éduquer, de sensibiliser en fait aux isolants.
Alors la scorie est un matériau qui existe naturellement en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes obligé de faire de la récupération, si j'ai bien compris, carton, papier. Vous avez organisé une filière de récupération.
Alors on est déjà collecteur, nous, parce que je suis aussi gérante de la société Ecotrans. On est déjà collecteur au fait de papier carton depuis plus de 20 ans, et cette filière au fait était une démarche nécessaire au fait pour continuer notre travail de recyclage. Et donc au fait, au départ, on a voulu répondre à deux besoins, donc celui du recyclage et en même temps celui du besoin en fait en isolant du territoire.
Mathieu Landrier, juste une petite question technique. Qu'est-ce qu'on appelle un matériau biosourcé?
Un matériau biosourcé, alors ça paraît des questions faciles, mais ça l'est pas du tout.
La question est facile, ouais, la réponse je ne sais pas.
En fait, ça fait couler beaucoup d'encre sur les exactes définitions qu'on peut donner. L'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on va être sur un matériau qui va venir d'un élément lui-même naturel. C'est une bonne idée déjà de se dire ça. Et qu'on va pouvoir dégrader derrière.
Soit qu'il existe naturellement, soit qu'il est fabriqué à partir de produits naturels.
C'est ça, exactement.
Okay.
C'est ça.
Un mot quand même sur le développement de vos activités, notamment d'Ognambo Scorie. Yveran, aujourd'hui, ça représente une activité qui fait vivre combien de personnes ?
Alors, la filiale elle-même, c'est pas énorme, c'est 3 personnes. Donc c'est sur la vente du local. Il faut bien séparer le local et l'export. L'export, ça reste SLN qui le gère. Le local, c'est Donion Voskhory. Donc c'est pas beaucoup, mais néanmoins, en termes de volume, notamment avec des projets tels que celui de la province sud, avec la liaison entre Ducos et le Médipôle, ça va représenter des très gros volumes à venir, puisque si ce marché est passé, on parle de pratiquement 390 000 tonnes par an pendant 3 ans. Donc ça va faire vivre non seulement DB Voskhory, mais également des rouleurs et puis la société qui aura le marché de mise en œuvre. Donc ce sera important. Et je pense que dans l'avenir également, l'export, moi j'y crois énormément, on a beaucoup de pays autour de nous qui ont besoin aujourd'hui de matériaux, qui n'en ont pas. Donc on a nous un produit disponible, on sait l'exporter, on sait le transporter. Donc dans les prochaines années, je pense que ça ne pourra que s'amplifier.
Et vous, Valérie Tinis, on va depuis la collecte jusqu'à la réalisation et la fabrication de la ouette de cellulose, ce sont combien de personnes à peu près qui sont engagées dans ce processus?
On est en total une quinzaine de personnes.
Une quinzaine de personnes. Ouais. Ça veut dire que le cluster éco-construction, Noémie Gervais, réfléchit évidemment à l'utilisation de ces nouveaux matériaux, mais aussi aux possibilités de filières ou de développement économique qu'ils peuvent engendrer.
Alors, le cluster, lui, rassemble les professionnels et c'est par la mobilisation des professionnels qu'on fait émerger des nouveaux sujets, dont notamment l'évolution de certains produits, des matériaux. Et donc, on est là vraiment pour donner la visibilité et faire réfléchir pour faire progresser sur ces matériaux. Par contre, on ne certifie
non, pas. Non, oui, vous n'avez pas de... Oui.
Mais on amène et on est en échange beaucoup avec les institutionnels, notamment pour faire évoluer et faire entendre, en fait, ces nouveaux débouchés, en fait, pour faire évoluer les pratiques constructives. Donc c'est vraiment son rôle, et je laisse compléter peut-être Mathieu sur...
C'est tout à fait ça, et il y a ce côté appel d'air, c'est-à-dire que le cluster porte aussi la démarche bâtiment durable de Calédonie, BDCAL, démarche dans laquelle on va évaluer, pour ceux qui le souhaitent, un projet par rapport à un référentiel, et pouvoir dire il est médaillé. Dans ce référentiel et les choses qu'on évalue, il y a une thématique matériaux dans laquelle, on suggère aux porteurs de projets, vous devriez utiliser plus de matériaux géosourcés, biosourcés, etc. Machin. Et donc, mais ils se retrouvent un peu le bec dans l'eau, les premiers, parce qu'on leur dit ça, puis après, ils regardent... Donc, ils sont dans la demande, mais il n'y a pas d'offre, quoi. Et donc, quand ça arrive une fois, deux fois, dix fois, et que vous avez des porteurs de projets qui, de plus en plus, commencent à dire « moi, ça m'aurait bien intéressé, en fait, d'avoir un mur en briques, un machin », eh bien, du coup, ça crée une demande, et donc, ça crée un appel d'air qui fait qu'on a des professionnels qui se mobilisent et qui se disent « ça fait X fois que je vois passer une demande là-dessus, je vais monter une boîte pour pouvoir... parce que mon grand-père, il faisait de la brique de terre, etc. » Et donc, c'est là où le cluster essaye d'intervenir en même temps en créant une offre et en même temps créant une demande, enfin, en structurant une offre, en aidant à la structuration de l'offre et en créant de la demande.
Yves Véran ?
Oui, j'ajouterai une chose sur l'aspect biosourcé. On le voit ici, donc sur le territoire, mais je reprends l'Australie aujourd'hui. Pourquoi l'Australie ? On arrive aujourd'hui à vendre de la scorie à une société donc, qui fabrique des matériaux en béton préfabriqué. C'est parce qu'il y a cet aspect donc, de recyclage. Ils sont demandeurs de matériaux recyclés. Et on voit réellement que c'est à cause de ça que la scorie aujourd'hui trouve sa place en Australie. Ce n'est pas l'aspect prix. Une fois qu'on transporte jusque là-bas, on est pratiquement plus cher qu'un produit naturel, mais on a un produit recyclé. Donc je pense qu'en Calédonie, il y a une même démarche et les puissances publiques, ou la puissance publique a un rôle vraiment aujourd'hui pour aider, que ce soit la scorie, la boîte de cellulose ou n'importe quel produit aujourd'hui recyclé, pour que ça favorise son introduction dans la construction.
Finalement, est-ce que l'utilisation de ces matériaux qui prend de plus en plus de place, c'est aussi une forme d'économie circulaire? Est-ce qu'on peut la définir comme ça?
C'est même une économie circulaire de proximité, donc c'est vraiment la définition même, mais c'est vrai que c'est encore peu intégré, en fait, dans les actions.
On en parle beaucoup, en fait, oui.
Mais on n'a pas encore l'habitude, au fait, de faire appel à ce genre de produits.
Alors, on sait que le marché du BTP aujourd'hui est à tonne, très compliqué. La commande publique redémarre un tout petit peu, mais pas énormément. La commande privée, elle est complètement, quasiment inexistante. Est-ce que dans les projets qui arrivent, vous voyez des promoteurs, des constructeurs, des entreprises de BTP qui viennent vers vous pour dire je vais avoir un projet à gérer, mais je voudrais réfléchir peut-être à l'utilisation d'un certain nombre de matériaux dont on n'a pas l'habitude de se servir. Est-ce que vous voyez des gens venir, ou est-ce qu'il faut vraiment faire du forcing pour aller imposer ces matériaux sur certains types de marchés? Yves Véran.
Alors, je pense effectivement, du forcing c'est peut-être un petit peu fort, mais il faut pousser nos produits, quels qu'ils soient, il faut rencontrer donc les donneurs d'ordre. Alors privé c'est compliqué aujourd'hui, Donc à présent, il n'y a pas vraiment d'intérêt, je le dis ouvertement. Mmh. Par contre, encore une fois, la puissance publique, elle, peut nous aider sur ce genre de domaine. Et je vois, moi, des progrès. Je vois aujourd'hui des projets dans lesquels le SLAN, alors le SLAN, c'est la scorie qui est au RCNC, ce n'est pas la scorie brute, j'aurais pu le préciser avant ça. Donc le SLAN, aujourd'hui, est poussé par la province sud, entre autres, et je vois des concours dans lesquels le SLAN est présent et des architectes qui retiennent le SLAN. Donc oui, je pense que ça va dans le bon sens.
Mmh. Mathieu Landrieux.
Alors, moi, c'est vrai qu'au quotidien, je suis plutôt en échange avec les porteurs de projets. Et j'ai quand même, depuis plusieurs années, et encore plus en ce moment, la sensation que oui, il y a une appétence, il y a une demande. Parce que les porteurs de projets, j'allais dire, quand ils quittent leur boulot, ils sont comme tout le monde, ils voient les infos, etc. Et ils se disent, il faut que je fasse quelque chose. Et ils l'ont intégré, au point qu'ils se disent, finalement, maintenant, dans le cadre de leur travail, ce projet-là, au fait, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider le monde à aller mieux, quoi. Donc c'est quand même des questions qui se posent de plus en plus, où nous, on les entend beaucoup, mais ce n'est pas si évident, finalement, parce que... comme on disait, il y a plein de barrières sur le chemin, de l'offre et de la demande, de la problématique réglementaire, normalisée, etc.
Des habitudes aussi de circuit, de marché.
Ouais, c'est ça, parce que faut se poser plus de questions, vu que c'est des chemins qui sont peu parcourus, donc ils sont broussailleux par rapport à celui d'habitude.
Il faut défricher, quoi.
Il faut défricher, et donc ça prend du temps. Mais je trouve qu'il y a une appétence. Voilà. Maintenant, le rôle du cluster, typiquement, c'est d'améliorer ce chemin-là, quoi.
Vous confirmez, Noémie Gervais?
Oui, tout à fait. En fait, on a vraiment ce rôle d'accompagnement et par le biais de la démarche bâtiment durable calédonien, BDCAL, effectivement, on a ce rôle-là, le cluster, pleinement de pouvoir accompagner, puisqu'on a des porteurs de projets qui sont volontaires, mais qui... savent pas comment faire. Et c'est bien parce que ça permet d'avoir des projets qui expérimentent aussi et puis qui démontrent que c'est faisable et c'est possible. Voilà. Donc ça, c'est des choses assez importantes.
Mathieu Landrieux.
Non, mais je voulais rebondir sur un élément. C'était sur la partie réglementaire, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le cite.
Oui.
Donc je voudrais juste dire que... En aucun cas, on est en train de penser et d'essayer de dire qu'il faut faire fi des réglementations et des normes qui ont pu être mises en place
pour
réintégrer des matériaux. Voilà. Mm. Le cadre normatif et les règles, tout ce qui existe, protège quand même largement les propriétaires de maisons, d'immeubles, etc. Et donc, il ne faut surtout pas dégrader cette protection. C'est vraiment important parce que derrière, quand il y a une sinistralité, quand il y a une toiture qui fuit parce que les matériaux utilisés n'étaient pas les bons, ou des murs, tout le monde est ennuyé. Donc, il ne faut pas dégrader la qualité. Justement, par contre, je pense que maintenant, on a suffisamment de recul, on sait faire, il y a plein de gens très éduqués qui sont capables de nous aider à faire en sorte que, par contre, on retrouve une place à ces matériaux-là dans ce référentiel normatif et réglementaire pour que on puisse dire à un propriétaire ou un futur propriétaire d'une maison ou d'un immeuble ou d'une usine, c'est OK, on a fait un mur en terre, on a mis de la ouate de cellulose, on a mis du SLAN, etc. Et ça fonctionne. Et tu seras couvert comme d'habitude et il n'y aura pas de problème.
Voilà, pour respecter important. Cette démarche, il faut nécessairement du temps, voilà, parce que ça prend du temps.
Du temps, du monde impliqué, le cluster, Noémie l'a dit en introduction, c'est une association, ça veut dire que tous les membres, les entreprises, les gens qui sont là autour de cette table aujourd'hui, sont des gens qui sont bénévoles au sein de cette association et qui consomment du temps, qui offrent du temps au bien commun pour faire avancer les solutions pour que demain, cette économie, elle voit le jour et puis elle soit fertile pour des emplois, pour des matériaux locaux.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ces nouveaux matériaux, de leur développement. Peut-être que la ouate de cellulose sera certifiée prochainement.
Je fais juste une petite précision. Elle dispose d'un agrément provisoire.
Voilà.
Mais ce qu'on attend avec
impatience,
c'est le définitif.
Vous reviendrez peut-être nous en parler. En tout cas, merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour parler de ces matériaux de construction, ces nouveaux matériaux de construction. C'est une émission, évidemment, qui sera disponible en réécoute comme chaque semaine sur notre site internet rrb.fr. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous remercie.
Merci.
Merci également, Hervé.
C'était les jeudis de l'économie avec la BCI.